Tiens, chapitre 4. Verset 13. Je remercie le Seigneur pour Robert. 26 ans fidèle à la même église, impliqué dans la musique depuis le début. Ça a toujours été une bénédiction. On a besoin des gens comme ça dans les églises. Amen. Parce que, écoutez, on est proche de la fin. Combien il y en a qui pensent qu'on est proche de la fin? Levez la main, juste pour voir. Un petit sondage. OK, presque tout le monde. OK. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En passant, c'est la version Louis II, 21, que j'ai peut-être, c'est pas la même version que moi. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur, on parle de nous, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns par les autres, les uns les autres par ces paroles. Père Céleste, on veut te remercier ce matin pour ta parole. Je te prie, Seigneur, que cette compréhension de cette partie des Écritures puisse être vraiment affirmée dans le cœur de tes enfants et qu'on puisse voir par nos yeux spirituels dans quel temps que nous sommes aujourd'hui et comment qu'on doit se préparer et racheter le temps. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu vas faire ce matin. Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Agis dans les cœurs, même les plus endurcis. Touche-les ce matin, qu'ils puissent vraiment te connaître. Connaître Jésus-Christ, le sauveur de ce monde. Amen. J'avais une petite vidéo ce matin à vous présenter. Je ne sais pas si on va être capable de le présenter. Je l'ai présenté à mon église également. C'est un pasteur qui prêche.
For you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month.
Jésus peut venir ce mois. Il peut venir la semaine prochaine. C'est une bonne manière d'introduire son message. Hein? S'il y en a qui dormaient, il n'y a plus personne qui dort. Mais c'est une réalité. Hein? Je ne vous dis pas que ça va se passer nécessairement un dimanche matin ou un dimanche soir ou une réunion de l'Assemblée, mais ça sent bien. Dernièrement, j'ai été demandé à prêcher à différentes occasions, à différents endroits, puis c'est le sujet qu'on me demande de prêcher sur l'enlèvement. Il y a dans le cœur des chrétiens quelque chose qui dit « Hey, Jésus est avec de revenir. » Il y a une chose que je voudrais vous partager ce matin. Je vais donner beaucoup de témoignages de gens qui ont eu une vision sur ces choses-là. Mais vous savez sans doute que les chrétiens qui étaient à Jérusalem, après que Jésus soit mort, ils ont été avertis par les prophètes de sortir de la ville parce que les Romains venaient détruire la ville de Jérusalem. Puis, c'est exactement ça qui est arrivé. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que Jérusalem a été détruit par l'armée romaine, mais les chrétiens n'étaient pas dans la ville, ils étaient sortis. Alors, le Seigneur est bon envers nous autres. Il veut nous préparer en avance. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, mais ça commence à être vraiment intéressant, qu'est-ce qui se passe. En fin de semaine présente, il y a une réunion qu'on appelle G20. C'est les pays qui représentent 85% des capitaux mondiaux qui se sont réunis ensemble et qui ont décidé, à cause du crash financier mondial qu'on vient d'avoir, est-ce que vous êtes au courant de ces choses-là? OK, on n'est pas encore affecté ici, mais éventuellement, peut-être qu'on va l'être. Puis des fois, je me demande si ça n'a pas été causé. J'étais avec un pasteur Mamadou Karamberi, pour ceux qui le connaissent, il y a quelques semaines, puis je faisais part de ma pensée que le crash financier mondial a été causé, comme d'autres choses ont été causées dans l'histoire, pour justement arriver aux fins d'un groupe d'hommes qui veulent diriger la Terre. Puis il dit, moi je pense pas, je suis certain que ces choses-là sont été provoquées. Alors, souvent on regarde ça, puis on dit, un exemple, vous connaissez-tu le passage dans Apocalypse, je crois que c'est 14, qui dit qu'il n'y a plus personne qui va acheter sans avoir une marque, la marque de la bête. Right? Vous connaissez ce passage-là. Mais nous, on pense que ça va arriver comme soudainement. Et que c'est planifié, ces choses-là. Depuis la tour de Babel, les hommes ont voulu diriger la terre. Depuis le 13e siècle, il y a un groupe d'hommes qui se sont réunis, qui avaient trois buts dans leur cœur. Premièrement, c'était contrôler les finances mondiales. Deuxièmement, c'était vraiment contrôler, si tu veux, tout sur la surface de la terre et avoir un roi qui serait là pour diriger la terre. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des choses qui se planifient, une chose après l'autre. Mais il y a un passage qui nous dit que ces choses-là ne peuvent pas arriver tant que cette chose-là ne sera pas enlevée. Je crois que c'est l'Église. Amen. Quand l'Église va être enlevée, ils vont pouvoir faire n'importe quoi. Alors, on a un rôle très important d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que dans cette Église-ci, on peut dire Amen? C'est pas permis. Oui? Amen. OK. Amen? OK, je veux juste voir si une action vivante ici ce matin. Alors, je crois qu'on est dans ces derniers temps. C'est comme ça se sent. OK? Avec le G20, ils ont décidé ou ils se sont mis d'accord avec certains points. Premièrement, qu'il y ait une transparence au point de vue financier dans le monde entier. Ensuite, ça, qu'il y ait une régulation saine. Ça me fait peur. Quand ils commencent à réglementer des choses. Tous les pays se sont mis d'accord avec ces différents points-là. Également, un partage d'informations. Tout le monde est d'accord qu'il y a un partage d'informations. Et, dernièrement, des collèges de surveillance. Ça, c'est les principaux points qui se sont mis d'accord avec. Alors, on voit que l'Antéchrist n'est pas là demain matin nécessairement, mais même si je crois que possiblement il est au monde, présentement. Okay? Alors, c'est comme ces choses-là sont là pour nous avertir. Le Seigneur dit, regardez les arbres, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans ce temps-là. Puis moi, je crois qu'on est vraiment dedans. Bonne place pour mettre un amen, ça. Hein? Le mot enlèvement n'apparaît pas dans la Bible. Toutefois, c'est le mot qui symbolise d'autres termes bibliques comme enlever, rassembler, arracher, transporter, transférer. Et ce terme décrit le fait que les chrétiens qui seront prêts. Dites qu'ils seront prêts. Pas tous les chrétiens vont être enlevés. Les chrétiens qui seront prêts pour la venue du Seigneur vont être enlevés de la terre. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Est-ce que des fois, tu peux t'imaginer que tu montes dans les airs et que tu vas rencontrer le Seigneur? Moi, des fois, ça m'arrive de réfléchir à ça et de dire, wow, le Seigneur il est là puis il va m'attendre dans les airs. J'aurais pu vous montrer d'autres vidéos ce matin sur l'enlèvement des gens qui montent, ben, parce que des fois on est visuel, mais je vais essayer de simplement vous le faire montrer par les paroles que je vais vous apporter. L'Écriture dit que tous ceux que Jésus connaît, dans la terre entière, vont être ressuscités ou changés en un instant, puis vont monter à sa rencontre, dans un nouveau corps incorruptible. Kenneth Hagin a dit, le Seigneur lui dit, « Je réunis et prépare les miens pour, car le temps est court. Je retirerai mon peuple avant le pire. » Les paroles de Kenneth Hagin. Et Jésus a dit qu'il venait chercher une église qui était glorieuse, prête, c'est-à-dire pleine de foi. Et parlant d'une venue débouchant sur l'enlèvement de personnes dans un temps de prospérité, comme au temps de Noé. Alors, il ne faut pas s'attendre que les choses vont rempirer soudainement. Qu'est-ce qu'on vit présentement, ce sont des choses qui sont provoquées artificiellement. Mais il va venir des temps très difficiles. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'on va être enlevé dans des temps de prospérité, comme dans le temps de Noé, ça nous dit dans Matthieu 24, 36, 40, je vais vous lire, « Personne ne sait quel jour et quelle heure cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Non, personne sauf le Père. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera lors du retour de l'homme. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire. » On est occupé à manger et à boire, hein? La même chose. « À se marier, à marier leur enfant, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Ce sera exactement la même manière, pareil, lorsque le Fils de l'homme reviendra. » Wow! Laisse-moi te poser une question ce matin. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es vraiment prête? Moi, je m'arrangerais pour être à l'église à chaque fois que les portes ouvrent. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, tu sais, un feu de camp que tu fais, là, des brasiers que tu mets ensemble, ils brûlent ensemble. Aussitôt que tu en prends un, tu le mets à côté, première chose qui commence, il commence à se refroidir. Puis il commence à changer de couleur. Puis il commence à puer, hein, à faire de la boucane. Puis c'est la même chose avec les chrétiens. On a besoin d'être chaud. Un bon amen, ça aurait été placé, là, parfait. Amen. Il faut leur dire aussi, mettre en amen. C'est incroyable. Amen. La parole dit qu'on va être transformé, hein, dans 1 Corinthiens 15, 51. Je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir et nous serons tous transformés. Y a-t-il du monde à Drummondville qui a hâte que Jésus revienne? Ou est-ce que vous êtes trop confortable présentement, là? Hein? J'espère que vous n'êtes pas trop confortable. D'autres passages, je vous avertis de la deuxième venue de Christ. 1 Corinthiens 15, 23 à 52. Mais à chacun son rang. Le Christ, le premier de tous, puis ceux qui lui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Le verset 52. Cela se fera très vite et à un clin d'œil. Dites un clin d'œil. Deux clins d'œil. Un clin d'œil. C'est vite un clin d'œil, hein? Quand la trompette sonnera, le dernier jour, où la trompette sonnera, alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas et ils seront transformés. On connaît beaucoup de passages là-dessus, mais j'aimerais vous donner des témoignages de différentes personnes qui ont eu des visions. Ça reste toujours dans le contexte de la parole, ça ne dépasse pas. Et des fois, comme je vous l'ai dit au début, les prophètes avertissaient que telle chose était pour arriver. Vous croyez dans les prophètes ici? Oui, amen. Nous, on croit également dans les prophètes, c'est des cadeaux que Dieu donne à son Église. Amen. Puis il doit toujours être soumis à l'autorité de l'Église locale, mais ce sont des cadeaux que Dieu donne. Et il y a un homme qui s'appelle Tommy Hicks qui dit, dans la vision qu'il a eue, « J'entendis de nouveau la voix lui dire, « Maintenant, voilà mon peuple, c'est mon épouse bien-aimée. Quand la voix parla, je regardais la terre et je vis des tombeaux s'ouvrir, et des personnes de tous les coins du monde, des saints de tous les âges se levèrent pour former ce gigantesque corps, et ils commencèrent à s'élever de la terre. » Il y a des gens qui ont eu ce privilège d'avoir des visions de l'enlèvement. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Combien de fois j'ai entendu le témoignage de gens qui, soit des fois, il y avait des gens qui prenaient le taxi, puis ils parlaient au chauffeur de taxi qui disait « Jésus revient bientôt ». Puis, il parlait sur les derniers temps, puis d'un coup, il disparaissait comme ça, instantanément. Dieu avertit son peuple. Dieu veut nous avertir. Dieu veut t'avertir. Parce qu'il t'aime. Puis, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, écoutez, c'est un privilège que Dieu nous donne de nous avertir d'avance. Il s'en vient un gouvernement mondial. Il s'en vient un jour où c'est que tu ne seras pas capable d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête. Puis, quand tu regardes un peu ce qui se passe présentement, ça s'en va tout vers ça. On entend des nouvelles, puis les nouvelles sont souvent contrôlées pour vraiment nous emmener à dire, mais on n'a pas le choix que d'accepter telle affaire, on n'a pas le choix d'accepter telle affaire. Puis on accepte ces choses-là comme si c'était tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est planifié. Dieu nous a avertis que dans le dernier jour, personne ne va pouvoir acheter ou vendre sans cette marque. Le monde nous enseigne que tranquillement, les cartes de crédit, ça sera obsolète. Parce que c'est comme les gens sont capables d'imiter, de faire des imitations. Combien de fois qu'on entend dans les journaux que les banques dépensent des millions et des millions à cause des fraudes. Puis, ils sont en train de nous convaincre tranquillement qu'on a besoin d'un système où c'est qu'il n'y aura plus de fraudes. On parle des paradis fiscaux, comme aux îles Caïmans, puis toutes ces îles-là. Puis, ils veulent empêcher ça, mais justement pour que la manière qu'ils vont faire, c'est que tu ne peux plus acheter ou vendre sans que ça soit enregistré. On s'en va vers ça. Le G20 vient d'avoir une rencontre en cette semaine. On voit que c'est dans le processus. La prochaine rencontre, ça va être au mois de mars, quand M. Obama va être président des États-Unis. Et laissez-moi vous dire que quand tu regardes ça, ça avance pas mal vite. Hein? Avec, je n'aime pas faire de la politique, mais les démocrates sont reconnus pour pas vraiment avoir des très bonnes valeurs morales. C'est Hillary Clinton qui devrait être le secrétaire d'État, selon les dernières nouvelles. Alors, c'est pas de bon augure quand tu regardes ça. Mais là, on est là pour on regarde tout ce qui se passe. Puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ouvrons nos yeux spirituels. Rachetons le temps. Dis à ton voisin, rachète le temps. On a besoin d'être averti de ces choses-là. On a besoin de connaître les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Amen. Aimé Temple McPherson a dit, pendant la première partie de la descente du Christ du ciel, il y a eu un silence. Puis soudain, le Seigneur mit la main à sa bouche et cria, appelant et réveillant son peuple hors des tombes. C'est comme ça que les époux faisaient dans l'Ancien Testament. Et ça rappelle un peu l'histoire des 10 vierges. Au son de sa voix, la terre trembla et les morts sortirent de leurs tombes. Ils vinrent de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, en s'élevant dans les airs. Il y avait comme une robe blanche qui émanait d'eux. Le Seigneur poussa un autre cri. Alors tous ceux qui étaient vivants sur la terre et dont les habits étaient lavés et les cœurs tournés vers le Seigneur furent enlevés avec ceux qui venaient de ressusciter dans les airs. Ça va avoir lieu. C'est un fait biblique. La parole de Dieu nous dit clairement. On a vu dans l'Ancien Testament comment que Enoch a été enlevé. Il marchait avec le Seigneur tranquillement, puis le Seigneur a dit, après plusieurs heures de marche, j'imagine, il dit, écoute, t'es plus proche de chez nous que de chez nous, pourquoi tu montes pas avec moi? Puis il a monté avec le Seigneur au ciel. Amen. Élie, il a monté dans un chariot de feu, puis possiblement ça va être les deux prophètes qui vont revenir. Puis nous, on va monter avec le Seigneur, puis la parole nous enseigne qu'un jour, on va revenir avec lui, faire la guerre. Fait que c'est des choses qui nous semblent des fois un petit peu obscures, mais c'est des réalités. On comprend pas tout, mais il y a des choses qu'on est capable de saisir. Et la chose qu'on est capable de saisir, c'est que Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Il y a d'autres témoignages qu'on pourrait donner. Il y a ce témoignage de Myriam, une petite fille de pasteur qu'elle avait 10 ans. Elle dit, j'étais allongée sur mon lit quand j'entendis le son d'une trompette, le ciel s'ouvrit. Et je vis descendre vers la terre avec beaucoup d'anges. Comme ils descendaient, je fus enlevé à sa rencontre. Je regardais autour de moi et vis beaucoup d'autres personnes monter avec moi. Je vais vous donner le goût de monter. Amen. À vous pratiquer peut-être à faire ça. Pourquoi pas? Faites pas comme... j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est une femme qui... sur son bumper, sur son par chaque année, c'était marqué quelque chose comme « J'ai hâte en enlèvement ». Puis, il y avait un camion qui était rempli de mannequins, en plastique, qui étaient soufflés à l'hélium. Puis, il a breaké soudainement, puis tous les mannequins, c'était comme des corps, ils ont monté dans le ciel. Puis, elle voyait tous ces corps-là monter, puis elle a vu ça, elle a pété sur le break, elle était dans la rue, puis elle était comme ça, puis elle s'est fait frapper. Non, mais c'est une joke, c'est pas vrai. Dans tout ce qu'on fait, on doit avoir un certain équilibre. Amen. Mais mon but à matin, c'est vraiment de vous donner le goût de vous préparer. Que je sois pas coupable de dire, j'ai pas prêché ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Puis, c'est comme si c'est plus que simplement toi. Vous allez voir, vous donner un autre témoignage tantôt de quelqu'un qui était dans le titanique, puis vraiment, c'est un témoignage extraordinaire. Puis, on doit comprendre que, oui, c'est bon, on est béni ici. Puis, si tu regardes les martyrs qu'il y a dans le monde, il y en a au-dessus de 250 000 lions de martyrs. Je pense que c'est comme 75 000 par jour de plus. C'est vraiment pas facile. Ici, on dirait qu'il y a comme, spirituellement, qu'est-ce que moi je ressens, c'est qu'il commence une pression vers les chrétiens. Veux pas. Puis le temps est très, très proche. Je regarde même au point de vue social. Je fais pas de politique du tout, là. Mais un des candidats a dit qu'il aimerait ça que remettre dans les écoles la prière ou l'enseignement religieux, OK, au provincial, dans les élections présentes. Puis tout de suite, ils l'ont marqué comme un tel, c'est un béret blanc, hein, ou se moquer de lui. Les gens aiment ça, se moquer de tout ce que représente le christianisme. On n'en veut plus dans le monde du christianisme. Puis il va arriver un temps où c'est que on va vraiment être un écharpe, puis ils vont vouloir qu'on parte, le Seigneur va venir nous chercher, puis ils vont dire « bon débarras ». Ils vont peut-être dire « c'est des extraterrestres qu'ils ont enlevés, hein ». Écoutez, ça circule. Vous seriez surpris de ce qu'ils vont voir. La terre a été purifiée, OK? Puis ça arrive à toutes les 6 millions d'années ou je ne sais pas trop quoi. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi pour arriver à leur fin. Mais qu'ils disent n'importe quoi, mais moi je veux monter avec lui avant tous ces problèmes-là. Parce que après l'enlèvement, ça ne sera pas un cadeau. Vraiment, là, écoutez, est-ce que tu es capable de t'imaginer que tu ne seras pas capable d'acheter ou vendre sans que ça soit enregistré? On est proche de ça. On le sent, on le voit, on l'entend. On est près de ces choses-là. Alors, réveillons-nous. Dis à ton voisin, réveille-toi. Matthieu 24, 42 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra, c'est pourquoi vous aussi tenez ferme, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que tu ne penseras pas. » Wow! Maintenant, je voudrais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu que vous connaissez sans doute, c'est David Wilkerson. Il y a eu une vision sur les derniers temps. Puis ce matin, c'est vraiment sur l'enlèvement que je peux parler. J'ai une série sur la fin des temps. Puis je crois que c'est pour l'Église, c'est le message le plus important de réaliser qu'il va y avoir un enlèvement. Puis de pas passer à côté de ça. Que ça soit pas une phobie non plus, que ça t'empêche pas de vivre. Moi, je vis comme si je vivrais pendant 100 ans. Mais je me prépare comme si je mourrais aujourd'hui ou demain. OK? C'est la mentalité qu'on devrait avoir. Je sais qu'il y a des gens qui partent en peur avec ça, qui s'en vont dans la forêt, comprends-tu, puis ils s'isolent du restant du monde. C'est pas ça qui est mon but ce matin. C'est juste de te dire, prépare-toi, parce que Jésus revient bientôt. Puis la meilleure manière qu'on peut se préparer, c'est premièrement, dans l'Église, avec les frères et les sœurs, c'est comme Dieu, c'est son plan. Dans la parole, très important, dans la prière, avoir développé une relation avec le Seigneur, connaître son cœur, puis vraiment avoir une intimité avec Dieu, une intimité profonde avec Dieu. Puis le Seigneur va te révéler des choses. David Wilkerson, il compte plusieurs faits sur l'enlèvement, puis il a vu des multitudes monter, une très forte puissance, force d'attraction, qui élevait dans les airs. Des anges étaient venus nous chercher. C'est dans la vision qu'il raconte. Il entrait dans les maisons et allait chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. On voulait dire que je m'en vais avec le Seigneur pour l'éternité. Le Seigneur était venu et nous allions tous rassemblés ensemble par les anges qui venaient chercher ceux qui étaient préparés. Hein? Matthieu 25, 10, ça nous dit, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin des noces. Et la porte fut fermée. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui montaient. Comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident, je voyais cet enlèvement prendre place comme au ralenti. Imagine-toi, tu vois ça comme au ralenti. Je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison trois personnes que je reconnus. Deux de ces personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, C'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas. Elles restaient là. J'ai soudainement eu un sentiment de terreur. Je me suis dit, oh Dieu, ils sont restés en arrière. Wow! Des fois, j'ai déjà eu ce sentiment-là, cette émotion-là, que les gens montaient, puis moi, je resterais là, puis wouh! Tu veux pas que ça arrive. Tu veux pas que ça arrive. Parce que les gens du monde, eux autres, ils vont trouver toutes sortes de raisons pourquoi que c'est arrivé. Mais imaginez-vous les chrétiens qui connaissent la vérité. Wow! Les chrétiens qui savent que c'est qui s'en vient après. Alors le Seigneur me fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là, qui n'étaient pas enlevés. À ce moment, je compris avec certitude que tous ceux qui s'appelaient chrétiens, qui disaient « Seigneur, Seigneur » et qui ne vivaient pas pour Dieu, qui se servaient de la grâce comme un prétexte pour vivre dans le péché, restaient là. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui arrivait. Jésus venait chercher les siens et eux restaient là. Ce verset est devenu très réel dans mon esprit. Matthieu 7:21-23. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je déclarerai, je vous ai jamais connu, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Wow! J'ai éprouvé un sentiment que j'ai jamais expérimenté, même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie par mon père et mon grand-père. Cette expérience-là ne va pas se décrire avec des mots. Ce matin, j'essaie de vous expliquer quelque chose qui ne s'exprime pas, qui ne s'explique pas avec des mots. Il faut que vous soyez capable de le recevoir dans votre esprit. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible comme le sien. La parole nous dit que nous serons où qu'on doit être prêts. Dans Apocalypse 19:7, « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. » Écoutez, il y a des gens qui aimeraient ça dire, « Jésus, quand tu reviens, là, avertis-moi 5 minutes avant. » Puis je vais être bien content. Écoutez, vous riez, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Avertis-moi 5 minutes d'avance. Comme ça, je vais pouvoir me préparer. C'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Je pense qu'il faut que tu sois prêt. Il vient pour ceux qui l'attendent. J'ai éprouvé un sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêtes. Ils ne s'étaient pas préparés. Tu as un privilège de te préparer. Tu vois le temps dans lequel nous vivons. C'est tellement visible, plausible. C'est devant toi, là. Il n'y a personne avant nous qui ont connu le temps dans lequel nous vivons. Alors, on n'aura pas d'excuses. Parce que c'est trop clair, c'est trop visible qu'est-ce qui se passe sur la terre. En ce sens, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour se faire remarquer. Mais il était trop tard. Nous sommes passés tout droit et eux, ils sont restés. Je savais que je partais pour le ciel avec le Seigneur, mais ce sentiment ressenti à propos de mes amis et de mes membres de ma famille qui étaient restés, je les voyais remplis d'une terreur incroyable et d'une détresse indescriptible. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite, une paix qui n'était pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des nuages au-dessus. Les personnes qui étaient là avaient revêti leur corps glorieux. Moi, j'ai hâte à mon corps glorieux. Parce que peut-être le Seigneur va me donner une voix glorieuse aussi. J'ai toujours voulu chanter en avant, je n'ai jamais été capable. Puis j'imagine qu'au ciel, je vais chanter avec les anges. On se regardait tous avec stupéfaction. Et étonnement, personne ne pouvait parler. Imagine-toi, tu es une foule qui est là, là. Tu vois qu'est-ce qui se passe, tu es conscient. C'est pas quand on va être enlevé, on va devenir inconscient. On va continuer à être pleinement conscient de qu'est-ce qui se passe. Amen. Ça s'est fait si vite, un instant, un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des 80. On ressentait cet amour insondable qui dépasse toute intelligence. Que je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus. Dernièrement, j'étais dans un temps de prière avec le Seigneur. J'ai un peu ressenti ce sentiment-là. J'étais, tu sais, quand tu es dans le Seigneur, puis tu as un bon temps, là. Est-ce que ça vous arrive? C'est quand tu ne veux pas être dérangé, tu ne veux pas que le téléphone sonne, tu ne veux pas que ta femme te parle, tu veux pas que tu veux juste rester toi puis le Seigneur. Puis j'étais dans un bon temps comme ça. Puis j'ai eu comme une vision. Je ne suis pas un homme à vision, j'ai eu comme une vision. J'ai pas dit, j'ai eu une vision. Puis je me voyais comme il y avait une porte qui était là, un cadrage de porte. OK? Puis je me voyais ce côté ici. Ce côté ici, j'avais. J'étais en chair, j'avais mon épouse. Mon auto, ma maison, tous mes biens matériels, tout ce que je peux avoir sur la terre, j'avais ça, ça faisait partie de moi, de ma personnalité. Et ce cadrage de porte qui était là, c'était comme si tu passais dans l'éternité. Puis j'arrivais, puis j'ai mis le pied comme ça, puis j'ai traversé la porte. Puis l'autre côté, c'était comme un feeling, un sentiment que tout ce que j'avais avant, c'était comme fini. J'avais plus rien de qu'est-ce que j'avais. Je sais pas si j'avais un nouvel habit ou quoi que ce soit, là, mais c'était comme toute mon ancienne vie, là, elle n'existait plus. Puis le premier sentiment que j'étais tout seul. J'étais tout seul. Ma femme n'était pas là. Mes amis n'étaient pas là. Les bébés n'étaient pas là. J'étais seul, moi et Dieu. Parce que, écoute, ta famille ne te suivra pas. Tes enfants que tu as, peut-être que tu vas les voir, mais ce ne sera plus tes enfants. Tu n'auras plus besoin de les élever au ciel. Ils vont être très bien élevés. Ce ne sera plus tes enfants. Quand tu donnes la vie à quelqu'un, tu donnes la vie à quelqu'un. En fait, on va se connaître, oui, mais pas comme parents, etc. Puis là, mais je traversais. En tout cas, c'était un drôle de feeling que j'avais. Que j'étais rendu l'autre bord. Que tout ce que j'avais fait quand j'étais sur la terre, comptait maintenant pour l'éternité. C'est la seule chose que je peux faire. Puis, laisse-moi dire quelque chose. Toutes les choses que j'ai faites, la parole a dit que ça va être comme des couronnes. Puis ma couronne, je ne la mettrai même pas sur ma tête. Je vais la déposer aux pieds de Jésus. Parce que c'est tout à cause de lui. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Amen. On n'a aucune gloire à se vanter de quoi que ce soit. Si on veut vanter quelqu'un, qu'on puisse vanter Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Parce que c'est lui qui fait toute la différence. C'est le dénominateur. Les gens ne nous détestent pas à cause de nous, ils nous détestent à cause de Jésus. Parce que, écoutez, les gens, là, ils n'ont absolument rien contre la religion. D'ailleurs, j'étais en Inde il y a quelques temps, puis là-bas, il y a comme 100 millions de dieux différents. Alors, ils ne sont pas contre la religion. C'est vrai. Puis, tranquillement, on s'en va vers le communisme, si tu veux, ou une religion globale. Puis, dernièrement, j'ai lu dans un article qu'il y a une église qui a perdu ses droits, parce que dans l'église, il enseignait contre les autres religions. Puis, ça s'en vient bientôt qu'on n'aura plus le droit de parler contre les autres. Vous savez, il y a l'homophobie, c'est quand tu parles contre les homosexuels, qu'un pasteur au Québec, tu n'as pas le droit de parler contre les homosexuels. Tout à l'heure, ça va être, tu n'auras pas le droit de parler contre les autres religions. Puis, ça veut dire des cours de religion que tu vas enseigner sur les sectes, tu n'auras même plus le droit d'en parler. Nous, on dérange. Parce que, je ne sais pas si dans cette église, vous croyez la même chose, que Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne devient pas que par moi. Est-ce que vous croyez à ça ici? OK. Ça veut dire que si vous dites comme moi je dis, il y a juste un chemin. Ça veut dire que les autres chemins, ça ne marche pas. Ça, là, le monde n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Ça les dérange. Puis on est des gens qui ne sont pas corrects vis-à-vis eux. Et c'est à cause de ça qu'ils vont essayer de se débarrasser de nous. Parce qu'on ne marche pas comme les autres. Tranquillement, quand tu regardes tout ce qui se passe socialement, c'est qu'on essaie d'emmener à une entente de se mettre d'accord sur différents points religieux, comprends-tu, pour vraiment pas s'entendre, puis tous être des frères, puis s'aimer, hein, s'aimer, etc. Mais on s'en va vers ça, frères et sœurs. Écoutez, je veux pas créer de la peur ou quoi que ce soit, mais c'est une vérité. On est rendu là. Regarde avec tes yeux spirituels qu'est-ce qui se passe. Puis on est rendu là. Tout était absolument indescriptible. On était revêtus de nos corps glorieux. Il y avait un sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce que j'avais cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité, de vérité que l'on sentait, c'était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité. C'était l'éternité. On est dans un temps ici. Tout à l'heure, il n'y aura plus de temps. Tout faisait partie du passé. Tout était devenu nouveau, comme dans un rêve. Le passé n'existait plus. Puis dans son rêve, dans sa vision, il a vu que c'était pas une joke, c'est pas une blague. Tout à coup, je me suis souvenu que j'étais en train de faire, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec tous ceux qui sont restés, pour tous ceux qui n'ont pas été enlevés, pour tous ceux qui sont restés en arrière et qui pensaient être prêts, ils ne sont pas ici, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer, ils sont perdus. C'est le sentiment que je ressentais. Ce n'était pas un sentiment que je prouvais quand Jésus reviendrait. Je crois que Dieu a voulu me faire ressentir tout ce que ces gens vivaient dans leur détresse. Tout à coup, alors, je pensais à tous ceux qui s'étaient restés, je me suis réveillé. Je me suis brutalement assis dans mon lit, j'ai pensé, c'est le songe le plus incroyable que j'ai jamais vécu de ma vie. Soudainement, comme un tonnerre, ces paroles sont faites entendre dans mon esprit, le fait d'être prêt, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Je ne suis pas ici pour faire des jokes ce matin. Vous devez être prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt, le Seigneur va revenir. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, mon peuple ne prend pas ça au sérieux. Il en parle, mais la façon dont il vit des mondes qui ne croient pas que je reviens bientôt et qui doivent se préparer. Parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, 27. C'est le genre d'église que le Seigneur. Il y en a beaucoup qui vont rester en arrière parce qu'ils ne seront pas préparés. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive de ta grâce, ta miséricorde, ton amour? Le Seigneur me répondit qu'il était tout cela, mais que le temps de la grâce était bientôt terminé. On est dans un temps de grâce. Est-ce que tu es capable de réaliser que c'est un temps limité de la grâce? Dieu permet aujourd'hui des choses qu'il n'aurait jamais permis avant et après. C'est un temps de grâce. Et on vit dans la grâce. Moi, je suis béni de la grâce. Je vous ai déjà prêché un message sur la grâce de Dieu. Quand j'ai saisi c'est quoi la grâce de Dieu, ça a été une révélation pour moi. Wow! Dieu est tellement bon. Dieu est tellement extraordinaire. Il a envoyé son Fils sur la croix, payer le prix pour mon péché à moi. Merci, Seigneur. Et maintenant, je peux des fois faillir, puis je demande pardon, puis la grâce est là, est surabondante. Amen. Vous savez que le péché est, la grâce est surabondante. Et je vis dans cet état de grâce, et nous vivons tous dans cet état de grâce. Bien, cette grâce va se terminer. Est-ce qu'on est capable d'être conscient de ça? C'est un temps privilégié dans lequel nous vivons. Zacharie 11, 10 nous dit, « Je pris ma houlette grâce et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. » Dans son rêve, dans sa vision, il a dit, « Mon peuple n'est pas prêt, et mon retour est prêt. » Ils devaient être plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'église le dimanche et ils ont hâte que la réunion finisse pour vaguer à leur activité. Ils vivent loin de moi. Pourtant, la parole dit que s'ils se rapprochent de moi, je vais m'approcher d'eux. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils ne pensent qu'à se préparer. Ils ne se préparent pas à ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Je ne parle pas d'ici, je parle des églises en général. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont-ils devenus si tièdes et durs? Pourquoi sont-ils confondus moralement et n'ont plus de discernement? Pourtant, Dieu dit, n'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2,15. Écoutez, c'est un privilège d'entendre la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège de savoir que Jésus revient bientôt. C'est un privilège de dire, on est capable de se préparer avant que Jésus revienne. Wow! Moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Si vous n'êtes pas prêts, c'est de bon temps. Combien de temps qu'il reste? Pas sur ma prédication, mais combien de temps qu'il reste? Est-ce que tu es capable de discerner le temps? Écoutez, je veux vous encourager à vraiment checker qu'est-ce qu'il se passe aux Nations Unies. Parce que tout va s'en aller vers ça. C'est toujours bientôt. Il va y avoir un autre terme. Parce qu'en 1914, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Ligue des Nations, comprends-tu? Puis après ça, la Deuxième Guerre mondiale, après, tous les pays se sont réunis puis ils ont fait l'ONU, hein, les Nations Unies. Alors, peut-être que bientôt, il va arriver quelque chose d'autre, que ça va être un autre nom, mais ça va être la même chose. Okay? Le secrétaire des Nations Unies. Je vous encourage d'écouter des nouvelles dans ce temps-ci, puis essayer de discerner ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne diront pas « Voici l'Antéchrist ». OK? Mais je pense qu'on est capable, on est assez intelligent pour dire « Ouais, ça sent pas mal fort. Hein? » Le secrétaire des Nations Unies a déclaré, dernièrement, il y a une semaine ou deux, que les Nations Unies étaient à la recherche d'un homme charismatique et rassembleur pour régler les problèmes économiques mondiaux. Est-ce que c'est assez proche, là? Je dis pas que c'est l'Antéchrist. C'est pas ça que je dis. Même si personnellement, je crois qu'il est peut-être au monde présentement. Mais peut-être que ça va être un homme avant l'Antéchrist, quoi que ce soit, là. Okay? C'est pas ça que je dis. Puis, il faut pas prendre peur. Mais c'est juste de dire, regarde le temps dans lequel nous sommes. Il y a 2000 ans, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il était là, puis Dieu lui a donné une révélation. Il a dit, il n'y a plus personne qui va être capable d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête. De 2000 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là, right? Mais là, on arrive. On est comme dans les prémices ou le début, si tu veux, de ce temps où c'est que l'Antéchrist va arriver sur la scène mondiale. Nous, on est capable de discerner les temps à cause de la parole de Dieu. Si on n'aura pas la parole de Dieu, on ne sera jamais capable de discerner qu'est-ce qui se passe. Aucunement. Aucunement. Écoute, c'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. Merci Seigneur pour nous avertir. Son plan, il est parfait. Mais qu'est-ce que ça nous donne de savoir qu'est-ce qui va arriver si on ne se prépare pas? On doit se préparer. J'ai un extrait de bord de données biographie de l'Office américain des marques et des brevets. U.S. Patent and Trademark Office. Brevet des États-Unis numéro 5.878.155, 2 mars 1999. Méthode de vérification de l'identité humaine au cours des transactions commerciales électroniques. Inventeur Heather Thomas W. déposé le 5 septembre 1996. Il s'agit d'une méthode visant à faciliter les transactions commerciales réalisées par des moyens électroniques. Un barcode ou un motif est tatoué sur l'individu. Ça a été déposé comme un brevet, là. Je ne compte pas des histoires, c'est un fait. Avant de conclure toute opération commerciale, le tatouage est numérisé avec un scanner et les caractéristiques du tatouage numérisé sont comparées aux caractéristiques de tous les tatouages stockés sur les bases de données informatisées afin de vérifier l'identité de l'acheteur. Une fois la vérification effectuée, le vendeur est autorisé à débiter le compte bancaire électronique de l'acheteur afin de conclure la transaction. Le compte bancaire électronique du vendeur peut être aussi actualisé de la même manière. Est-ce que vous êtes capable de voir ce qui se passe? Vous savez, quand les codes barres, est-ce que tout le monde, vous savez c'est quoi un code barre? Si vous ne savez pas, je sais qu'on est en campagne, là, mais un code barre, c'est comme ça. OK? Que je peux dire ça, je suis québécois. Je suis correct. Tout le monde, on sait c'est quoi un code barre. Savez-vous quand ça a commencé, les codes barres, là? Il y a bien du monde qui se sont révoltés contre ça, hein? Hey, un code barre, voyons donc, c'est l'Antéchrist, ça! Est-ce qu'on entend ces commentaires-là aujourd'hui? Essaye donc d'enlever les codes barres à cette heure. Hein? Ils seront pas contents, pantoute, les petits messieurs. Right? Fait que, l'être humain, il s'adapte facilement. C'est comme si tu mets, je connais ça toute l'histoire de la grenouille dans un chaudron d'eau froide, puis tu mets ça sur le poêle, puis tu allumes le feu en tôle, puis elle va toujours rester dedans, puis elle va prendre la température, puis elle va exploser un bout de temps. On est un peu comme ça, nous autres aussi. On chiale bien, bien fort au début, puis après ça que c'est passé, mais c'est correct. Tout le monde est habitué, puis on peut pas vivre sans ces choses-là. Alors, quand tu vois qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui est arrivé, ça nous montre qu'est-ce qui va arriver plus tard. Là, tout à l'heure, je vous ai dit au début de la réunion que les G20 se sont réunis ensemble, puis ont commencé à élaborer certains principes, puis d'avoir des contrôles plus étroits, d'avoir des collèges de contrôle. Fait que ces choses-là s'en viennent petit à petit. Je ne crois pas personnellement que, en tant que chrétien, qu'on va être demandé d'avoir la marque de la bête. Mais je vois peut-être dans un jour prochain, un temps aussi qu'il va y avoir des gens qui vont avoir une marque sur eux autres pour pouvoir acheter et vendre. On est dans la préparation de ces choses-là. La marque de la bête va être très clairement indiquée. Ça veut dire que tu vas savoir que quand tu prends cette marque-là, tu dois adorer la bête. Mais avant que ça arrive à ça, dans X nombre d'années, il y a tout un processus qui est en marche, qui est en fonction présentement. On s'en va vers ça. Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Alors, il va y avoir des choses qui vont arriver. Si je ne me trompe pas, je crois qu'au Japon, il y a un petit village où c'est que les gens, présentement, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de carte de crédit, mais ils achètent et vendent avec une marque comme ça. Je vais vous lire quelques articles vraiment intéressants. Est-ce que ça vous intéresse, ça, ce matin? Vous n'avez pas le choix, hein? Apocalypse 13, 16, je vais donner la référence. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur le front ou la main droite, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors, on voit que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Il y a, dans un avenir approché, il n'y a personne qui va pouvoir acheter et vendre sans ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf avec la puce? Parce que un va avec l'autre, si tu veux. Présentement, on parle de puces. Même il y a des animaux qui sont pucés. Hein? Quand, en Louisiane, quand il y a eu le hurricane, l'ouragan, ils ont pucé des cadavres. Okay? Dans l'armée, présentement, ils donnent des puces. En Australie, présentement, dans les banques, tous les employés sont pucés. Beaucoup d'animaux sont pucés maintenant. Alors, c'est comme on est là. OK? C'est pas des jokes, là. On est là. C'est pas nécessairement quelque chose qui en parle. Sachez qu'aux États-Unis, il est possible, depuis la fin de l'an 2002, pour tout citoyen de se faire implanter la puce, et ce, pour le modique terme de 200 $. Est-ce que quelqu'un a 200 $ qui va se faire pucer, madame? En effet, la firme ADS, Applied Digital Solutions, via sa filiale VeriChip, a été autorisée de commercialiser sa microchip qui porte le nom révoltant de Digital Angel, l'ange digital. L'ange digital, dans sa configuration actuelle, fonctionne de la même façon que les portables que nous connaissons bien, avec des antennes relais et le système GPS satellite. Son porteur devient ainsi totalement repérable depuis l'espace. Si vous croyez que ceci est une mauvaise blague, allez donc visiter le site digitalangel.com. Vous allez voir tout ce qui se passe. En outre, cette micropuce possède un numéro de série de 18 chiffres. Et ce numéro est divisé en trois groupes de 666. Ça te rappelle-tu quelque chose, 666? Mais il y a où le problème? Pensez que tu vas dire, puisque ces braves gens, ils peuvent le choisir en toute liberté. Eh bien, le problème se situe ici. Il existe des projets de loi devant le Congrès américain qui permettront d'injecter la micropuce aux enfants dès leur naissance, soi-disant à des fins d'identification. Est-ce que vous n'entendez pas des fois des nouvelles que des enfants y ont été enlevés? Je vous ai dit tout à l'heure que des fois, on fait des nouvelles. On contrôle les nouvelles. On fait des nouvelles, des fois, c'est la nouvelle banque de connaissances qu'on transmet à la population. On entend parler que les enfants sont enlevés, puis s'il y aurait eu une micropuce, on les aurait tout de suite retrouvés. Fait que la propagande va s'en aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on va arriver tout à l'heure au point ultime. De plus, le président des États-Unis, selon l'article 100 de la loi sur le contrôle de l'immigration en 1966, a le pouvoir de décider toute forme d'identification qu'il juge nécessaire, y compris une micropuce insérée sous la peau. Le microchip a été utilisé lors de la guerre du Golfe en 1991. Elle a déjà été testée, implantée sur des militaires, des employés du gouvernement et du personnel d'entreprise. La presse indépendante US, États-Unis, a dévoilé l'existence d'un projet de loi rendant obligatoire le puçage pour les sans-domicile fixes dans 5 États, dont New York et Californie. Projet dont l'imminence a été confirmée en avril dernier pour surveiller et aider étroitement la population des sans-foyers. Les supporters de la RFID subdermal disent que la technologie découragera les hommes et les femmes sans foyer implanté de commettre des crimes. On a beaucoup de bonnes raisons pourquoi qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis on va l'accepter. De la même manière comme le code barre, c'était comme évident. Mais ça va être la même chose pour nous autres. Nombre de sociétés aux États-Unis exerçant une pression pour obtenir une implantation de puces sur les employés pour savoir où c'est qu'ils se trouvent. Ils ne veulent pas qu'ils soient sur le terrain de golf s'ils disent qu'ils sont malades ou des choses comme ça. Il est aujourd'hui officiellement déclaré que le microchip a déjà été utilisé lors de la guerre du globe en 1991. Et, c'est ça, je l'ai mentionné, toujours aux États-Unis, un bus appelé Chip Mobile sillonne les États-Unis en encourageant les gens à se faire pucer. Et lorsqu'ils trouvent un endroit où de nombreuses personnes inconscientes sont intéressées, les dirigeants de Verichip font construire un centre Verichip pour diffuser la puce et son influence. On est si proche? Applied Digital Solutions, la compagnie qui commercialise la micropuce sous-cutanée, a signalé des accords commerciaux pour la Verichip avec d'innombrables pays. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe présentement. Mais si vous allez vérifier pour vous-même, tous les pays dans lesquels que Verichip a une base ou peut-être une compagnie semblable, ça commence à être innombrable. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour que votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils viendra à l'heure que tu ne t'attends jamais. Bob, veux-tu venir, s'il te plaît? Tu connais si Robert va jouer du piano? Oui? Ça ne dérange pas? Ça fait 26 ans qu'il joue pour moi. Amen. Écoutez, on est là. Là, c'est un temps que Dieu nous donne de pouvoir comprendre le temps dans lequel nous vivons. On n'a aucune pression sur nous. Amen. On est privilégié même d'être au Canada. Parce que si on est au Canada, on est encore dans un pays libre. Tout à l'heure, ça sera plus libre comme qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi qu'on ne profitera pas du temps maximum qu'on a aujourd'hui? De simplement être des disciples de Jésus-Christ, d'être fous pour le Seigneur. Amen. S'il y a des fous dans le monde qui veulent contrôler le monde, pourquoi qu'on ne deviendrait pas fous pour servir le Seigneur? Amen. Je voudrais juste vous lire une petite histoire, puis après ça, je vais terminer ici. Ça va? Oui? Oui? OK. C'est John Harper, c'est pas parent avec notre premier ministre. Il est né de bons parents chrétiens, le 9 mai 1872. Y a-t-il quelqu'un qui était au monde ici? 1872. Il reçut Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie à l'âge de 13 ans, soit le premier dimanche du mois de mars 86. 4 ans après, il commença à prêcher dans les rues de son village, en se donnant de tout cœur, en priant de façon fervente, ainsi afin que les hommes puissent se réconcilier avec Dieu. Juste baisser le piano, s'il vous plaît. Au fil des années, il était évident que John Harper était consumé par la parole de Dieu. Plusieurs responsables d'Église lui ont demandé quelle était sa doctrine. Il répondait, la parole de Dieu. Puis une période d'environ 5 à 6 ans, il prêchait l'Évangile au coin des rues, tout en travaillant dans une usine durant le jour. Il fut par la suite pris en charge par le Carter Baptist Pioneer Mission à Londres, l'organisation missionnaire. Cette opportunité lui permit de dévouer tout son temps, son énergie, le travail qui lui tenait tant à cœur de prêcher la parole de Dieu. Après, ou peu de temps après, John Harper fonda sa propre église en septembre 1996, maintenant connue sous Harper Memorial Church. Cette église que John Harper fondée a fait ses débuts avec seulement 25 membres, puis grandit plus tard à 500 membres. Au moment où il quitta 13 ans plus tard, pendant cette période, il se maria et Dieu bénit John Harper en lui donnant une magnifique petite fille. Il est ironique que John Harper faillit se noyer plusieurs fois dans sa vie. Lorsqu'il n'avait que 2 ans, il s'est presque noyé en tombant dans un puits, mais il a été ressuscité par sa mère. À l'âge de 26 ans, il s'est fait prendre par le courant de la mer et à peine parvenu à survivre. Finalement, à l'âge de 32 ans, il fait face à la mort dans un bateau qui coulait dans la Méditerranée. Il est très probable que Dieu a utilisé ses expériences afin de préparer son serviteur pour ce qu'il aurait à faire par la suite des temps. C'était la nuit du 14 avril 1912. Le Titanic naviguait doucement dans les eaux froides de l'océan, se dirigeant sans le savoir dans les pages de l'histoire. À bord de ce luxueux et gigantesque paquebot voyageaient plusieurs personnes riches et célèbres. Au moment du lancement du paquebot, c'était le plus gros objet mobile fait de main d'homme. Lors de cette date pathétique, à 23h40, un iceberg grattait le côté du paquebot, inondant le pont de glace et déchirant 6 compartiments qui étaient à l'origine étanches à l'eau. La mer s'est littéralement déversée à l'intérieur. À bord du paquebot, cette nuit-là, se trouvaient John Harper et sa chère fille de 6 ans. Les rapports documentés nous révèlent qu'aussitôt confirmé que le paquebot coulait, John Harper a immédiatement amené sa fille à un bateau de sauvetage. Il est raisonnable de prétendre que ce serviteur de Dieu veuf aurait pu lui aussi monter à bord de ce bateau afin de garder la vie sauve. Cependant, cela ne semble jamais avoir été pour lui une option à considérer. Il s'est penché et a embrassé sa précieuse fille. Regardant dans ses yeux, il lui dit, « Je vais te revoir un jour. » On pouvait distinguer des larmes sur son visage alors qu'il se tournait et allant vers la foule des personnes désespérées sur ce paquebot coulant dans l'océan. Il est rapporté qu'au moment où la partie arrière du paquebot s'éleva vers le haut, on aperçut John Harper allant vers le pont en criant « Femmes, enfants et les non-sauvés, montez dans les bateaux de sauvetage ». Ce n'était que quelques minutes avant que le Titanic ne soit entièrement à pic pour plonger profondément dans la mer. À ce moment même, la plupart des témoins crurent entendre une explosion. En fait, le gigantesque paquebot s'est littéralement fendu en deux. À cet instant, plusieurs ont sauté des ponts pour se jeter dans les eaux glacées et nocturnes qui se trouvaient plus bas. John Harper était une de ces personnes. Cette nuit-là, 1528 personnes se sont jetées dans les eaux glaciales. John Harper a été vu nageant de façon frénétique vers les personnes se trouvant dans l'eau pour les amener à Jésus avant que l'hypothermie ne devienne fatale. M. Harper a nagé vers un jeune homme qui avait agrippé un morceau de débris. Le révérend Harper lui a demandé entre dur respect, « Es-tu sauvé? » Le jeune homme a répondu qu'il n'était pas. Harper a alors tenté de l'amener à Christ, mais le jeune homme était presque en état de choc. Il a répondu non. John Harper a retiré son gilet de sauvetage et le lançait au jeune homme. Il dit, « Voici, tu as besoin de ce gilet beaucoup plus que moi. » Il a nagé avec d'autres personnes. Quelques minutes plus tard, Harper retourne vers le jeune homme et réussit à l'amener au salut. Parmi les 1528 personnes qui se sont jetées à la mer cette nuit-là, 6 ont été secourues par les bateaux de sauvetage. L'une de ces personnes était ce jeune homme qui s'est tenu à l'un des débris. 4 ans plus tard, à une réunion de survivants, ce jeune homme a témoigné en larmes, racontant comment John Harper l'amenait à Christ et comment M. Harper a par la suite nagé vers d'autres malgré le froid intense et l'immense fatigue de la nage. Ce dernier mot, avant de plonger dans les profondeurs de la mer pure, croyez au nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Est-ce qu'Hollywood se rappelle de cet homme? Non. De toute façon, ça n'a aucune importance. Ce serviteur de Dieu a fait son devoir. Alors que certains essayaient de s'acheter une voie de sortie dans l'une des bateaux de sauvetage et orgueilleusement sauver leur propre vie, John Harper a donné la sienne afin que d'autres soient sauvés. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour les autres. Ce monsieur-là, il comprenait c'était quoi la valeur d'un âme. Il comprenait c'était quoi. Il comprenait c'était quoi la valeur d'un âme. Est-ce qu'on a compris c'est quoi la valeur d'un âme? Est-ce qu'on comprend que oui, on doit sauver notre propre âme, c'est important, mais ceux qui nous entourent, la ville de Drummondville, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Vous connaissez, vous avez cette richesse-là dans chacun de vous. Quel privilège qu'on a! Quel privilège! Quel privilège! Si vous n'avez pas ce privilège-là de connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vais vous faire l'invitation ce matin. Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel? C'est un privilège que vous avez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et dire, « Moi, je veux accepter Jésus comme mon sauveur personnel. » Quelle opportunité que vous avez. Quelle merveilleuse opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ici, qui voudrait l'accepter dans son cœur? Gloire à Dieu, c'est de tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas prêts? Jésus revient bientôt, puis peut-être je devrais me placer dans une meilleure condition à son retour. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient dire ce matin, mais peut-être j'ai des croûtes à manger. Peut-être j'ai des choses à faire. Peut-être que je devrais plus, mieux me préparer. Soyez honnêtes ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait lever la main? Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre ce matin qui va dire, je ne sais pas si je serai vraiment prête, mais je veux être sûr d'être prête. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, je veux être sûr d'être prête? Amen. 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 Quelqu'un d'autre? Peut-être une bonne personne. Amen. Est-ce quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi pas? Tu sais, c'est un privilège. Il n'y a personne qui va vous juger. Même s'il vous juge. So what? Hein? On va être avec le Seigneur pour l'éternité. Why not? Pourquoi pas? Hein? Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? J'inviterai ces gens-là qui ont levé la main. Il y a des conseillers ici qui vont venir prier pour vous. Alors, ceux qui ont levé la main, avancez en avant, s'il vous plaît. On va prendre quelques instants pour prier pour vous. C'est peut-être un temps unique dans votre vie, de reconsacrer votre vie au Seigneur. De dire, Seigneur, je veux vraiment vivre pour toi. Ceux qui devraient en faire plus, peut-être prenez cette opportunité de venir en avant aussi, de dire, Seigneur, je veux te consacrer ma vie. Je veux te donner tout ce que j'ai, Seigneur. Je veux vivre pour toi aujourd'hui. Es-tu des gens qui veulent simplement s'avancer et dire, Seigneur, je veux reconsacrer ma vie un matin. J'ai soif de toi, mais je n'ai pas encore assez soif de toi, Seigneur. Je voudrais avoir plus soif de toi, Seigneur. Je vais être prêt quand que Jésus va revenir. Tu sais, c'est pas une joke, c'est pas. Je ne fais pas ça pour m'amuser. C'est pour vous, hein. C'est l'éternité. L'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu, c'est très long. Nous, on connaît juste un temps fini, un temps limité. Mais quand l'éternité va rentrer, ça va être pour l'éternité. Et c'est juste une décision de dire, Seigneur, moi je veux vivre pour toi, Seigneur. Alors si vous êtes dans vos bancs, ça veut dire que vous êtes vraiment des chrétiens enflammés pour le Seigneur. Vous témoignez constamment pour Dieu. Vous lisez votre Bible constamment. Vous êtes en amour avec le Seigneur. Il n'y a rien d'autre dans votre vie que le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, ben avancez-vous. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est très simple. Hein? C'est pas compliqué. C'est soit que tu es en feu pour le Seigneur ou tu ne l'es pas pantoute. Il y a chaud, froid, puis le Seigneur ne dit pas les tièdes. Parce que c'est pire que d'être froid. On a besoin de se donner entièrement. Tu sais, vous parlez à une personne, tu sais, là. Et j'avais un job de 70 000 $ quand je travaillais pour la compagnie Shell. J'ai donc fait ça pour mener à 12 000 $ par année pour servir Dieu. J'ai payé le prix que j'aurais payé. Puis, si ça sera à faire, je le ferai encore la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis entièrement à Dieu. J'aime Jésus. Je dis à tout le monde que j'aime Jésus. Jésus, c'est tout pour moi. Puis, pour moi, il n'y a pas deux mesures, il y a juste une mesure. C'est la pleine mesure. Amen. Je veux vous encourager, si vous n'êtes pas vraiment engagé avec le Seigneur, donnez-vous un matin, entièrement à lui. Merci Seigneur. On va faire une prière générale, ok, ce matin ici. Après ça, il y aura des conseillers qui vont prier pour vous. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, je te demande pardon de ne pas avoir été là où c'est que je suis censé d'être. D'avoir pris ma vie un peu trop facilement. D'avoir été un petit peu trop libre. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Pour tout ce que j'aurais dû être et que je n'ai pas été. Je veux te consacrer ma vie. Je veux te donner ma vie. Seigneur, prends-la. Prends-la entièrement. Seigneur, je veux penser juste à toi. Je veux te lire à tous les jours. Je veux te parler à tous les jours. Je veux être en amour avec toi, Seigneur. Seigneur, viens changer mon cœur. Que je ne sois pas laisser de côté quand tu vas venir chercher ton Église. Mais je vais t'attendre impatiemment. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu me donnes. C'est peut-être la dernière chance. Mais Seigneur, je vais la saisir de tout mon cœur. Et à partir de ce matin, je m'engage à t'aimer de tout mon cœur, à te servir de tout mon cœur, à être entier pour toi. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Rien d'autre n'existe que toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Roi. Jésus, je t'aime plus que toute autre chose au monde. Prends ma vie ce matin. Prends ma vie ce matin. Prends ma vie ce matin. Je vous encourage à simplement rester ici, à passer un temps avec le Seigneur. Les conseillers vont venir, vont prier pour vous.